Depuis dimanche, dans la Ghouta orientale à l'est de Damas, en Syrie, 462 civils, dont une centaine d'enfants, sont morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rien que pour la journée d'hier, on a dénombré 32 morts, dont 6 enfants. Hier soir, le Conseil de sécurité de l'ONU, on l'entendait dans le journal, a finalement reporté son vote sur un cessez-le-feu à ce soir, 17h. Mais cela n'a pas empêché cette semaine le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de qualifier la zone d'enfer sur Terre et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, de cataclysme humanitaire. Bonjour Basma Khodmani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, directrice du think tank Arab Reform Initiative, ce qui est un consortium d'instituts de recherche du monde arabe. Vous avez cofondé le Conseil national syrien, principale coalition de l'opposition syrienne à l'extérieur, dont vous avez démissionné en 2012. Aujourd'hui, vous êtes membre de la délégation de l'opposition syrienne, qui s'appelle le Comité des négociations de l'opposition syrienne, qui est une structure qui réunit actuellement toutes les branches de l'opposition et qui participe de ce fait aux négociations de paix sous l'égide de l'ONU. On entend parler d'hôpitaux bombardés, de blocage de l'aide humanitaire, de coupures d'eau, électricité. Finalement, ce qui se passe dans la Ghouta orientale est comparable à ce qui se passait à Alep, Basma Khodmani.
Oui, nous sommes devant un scénario très comparable. La population, simplement, nous sommes devant un territoire plus réduit et plus densément peuplé.
Et 400 000 personnes.
400 000 personnes, il en restait 200 000 à Alep lorsque l'opération d'anéantissement de l'est de la ville avait été engagée il y a maintenant un an et demi, un an et trois mois. Le drame de la Ghouta humanitaire est une chose indescriptible. Vous avez peut-être vu l'UNICEF qui a publié un communiqué blanc, sans mots. Sans aucun mot. Voilà. Alors voilà ce à quoi les organisations internationales humanitaires sont réduites. Personne pour changer la donne. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que lorsqu'on va au Conseil de sécurité pour voter une résolution en n'ayant aucune intention de prendre la moindre mesure qui puisse changer le comportement de la Russie, alors qu'attend-on d'une telle résolution ? La Russie fera voter la résolution lorsque ça l'arrange et la fera voter dans les termes qui l'arrangent. Autrement dit, si la Russie pense qu'il faut anéantir la Ghouta, que la solution pour la Ghouta est une solution militaire, alors la résolution sera amendée, c'est ce qui est en train de se passer. Le terme de « le Conseil de sécurité décide » se transforme en « le Conseil de sécurité demande » et non plus « décide ». Le Conseil de sécurité vote une trêve de un mois ou un cessez-le-feu d'un mois, à l'exception des cibles terroristes. Alors on cite bien sûr Al-Qaïda, Daesh... Et on se retrouve donc devant exactement le risque que l'on se retrouve de la même manière en train de bombarder des zones civiles sous prétexte qu'il y a là un terroriste parmi 1000 habitants.
D'autant que, Basma Khodmani, si je ne m'abuse, la Ghouta orientale est censée être une zone de désescalade depuis l'été 2017, donc les résolutions ne sont pas respectées.
Vous savez, sur 7 ans, nous avons le même schéma qui est ceux qui s'engagent, on voit au chapitre. Ceux qui mettent des troupes sur le sol ou ceux qui engagent des forces, une force militaire, un appui militaire à une partie ou l'autre, est la partie qui sera entendue. Le drame de la Syrie est que toutes les solutions négociés, pacifiques, toutes les solutions de compromis semblent échouer. Et en 7 ans, nous avons une répétition. Alep n'est pas Alep. Avant Alep, il y a 10 Alep, 10 petits Alep. Alep était à attirer l'attention du monde, mais nous avons eu exactement le même scénario dans bien des villes. Et le drame aussi, c'est que les Nations Unies se lavent les mains de la situation sur le terrain. Alors, on ne va pas en vouloir à Monsieur Guterres, secrétaire général, ou à l'envoyé spécial pour la Syrie, Monsieur de Mistura. Ce sont des diplomates, ils sont là pour amener les pays à des compromis. Seulement, les Nations Unies se sont quand même pas mal désengagées de la situation sur le terrain. Autrement dit, ce qui leur paraît désespéré, ils lui tournent le dos. C'est là où nous en sommes. Donc, il y a une semaine, avant que cette opération commence, nous étions au milieu de plein de responsables de ce monde, entre autres les Russes, les Américains, les Nations Unies, et notre discours était « Faites attention, les troupes sont concentrées, il y a une opération massive qui se prépare contre la Ruta, elle est imminente, qu'allez-vous faire ?» Et nous avions des regards vides. Des grands diplomates de ce monde et des grands responsables politiques. Et la réponse était « Allez voir les Russes ». Alors, quand on dit au peuple qui est victime « Allez voir les Russes » pour les supplier, autrement dit, le message est « Vous n'avez personne avec vous. Personne ne vous défendra, personne n'arrêtera la boucherie et allez voir ce que les Russes veulent bien vous accorder ». Et donc, la population se trouve à la merci de la Russie. Voilà où nous en sommes. Nous sommes censés engager un processus politique dans lequel l'opposition a montré toute la souplesse qu'il fallait. Voulez-vous qu'on commence par la transition politique ? Non, commençons plutôt par la formation d'une commission constitutionnelle et parlons plutôt d'élections. Parlons de ce que pourrait être un environnement calme et neutre qui permettrait de tenir des élections. On croit rêver parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une bulle où tout est calme et où l'on peut parler de processus constitutionnel et de processus électoral. Et lorsque la situation se détériore sur le terrain, l'opposition se garde bien de dire qu'elle suspend les négociations parce qu'elle ne veut pas être tenue pour responsable d'avoir arrêté le processus. Mais vous voyez combien tout ça est dérisoire. Le régime ne vient pas aux négociations. Lorsqu'il vient, il refuse de parler. Donc, il n'y a pas de processus politique. Et il y a un processus militaire sur le terrain. C'est là où on s'interroge. La Russie a-t-elle fait le choix de la solution politique ? Aujourd'hui, la réponse est non. La Russie, semble-t-il, a fait le choix de la solution militaire jusqu'au bout. Et donc, on se demande s'il y a une solution, un règlement de la question syrienne. Le mot règlement a perdu tout son sens lorsque on voit ce qui se produit aujourd'hui dans la Ruta.
Basma Kobani, vous parlez des regards vides et des silences des grands diplomates à qui vous vous êtes adressé. Emmanuel Macron et Angela Merkel, en tant que responsables politiques, ont écrit au président russe Vladimir Poutine pour lui demander de contribuer à l'adoption de cette résolution qu'on attend encore des Nations Unies pour instaurer une trêve en Syrie. Quel est l'impact de ce genre d'initiative selon vous ? Est-ce que c'est la même chose que les discours ? Ça va rester lettre morte ?
S'il n'y a aucune mesure de pression ou de coercition, je crains que toutes ces démarches restent sans effet.
Quel moyen de pression pourrait-il avoir ?
Écoutez, on n'évoquera jamais les sanctions. Les sanctions, c'est bon pour signifier son mécontentement vis-à-vis de la Russie quand il s'agit de l'Ukraine, mais jamais quand il s'agit de la Syrie. Et pourquoi ? Et pourquoi la Syrie ?
Je retourne la question.
Pourquoi le peuple syrien n'a pas droit à quelques mesures de rétorsion contre les responsables des crimes ? Voilà. Nous sommes donc devant une hypocrisie internationale qui est terrible.
Est-ce que c'est pas parce que aussi d'autres batailles autour de la Syrie sont en cours ? Un conflit turco-kurde à Afrin, qui est une enclave kurde au nord-ouest de la Syrie. Un affrontement irano-israélien. Comme si, Basma Kobani, la situation n'avait jamais été aussi complexe. Dans le journal Libération ce matin, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, dit qu'un embrasement régional, le risque d'un embrasement régional est déjà là.
Oui, le discours français a le mérite d'être juste et ce que dit Monsieur Le Drian est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'au-delà de l'abomination humanitaire, le risque sécuritaire est considérable aujourd'hui en Syrie et s'est accru. Alors, il faut quand même toujours partir de l'origine du conflit. On peut ensuite partager le territoire en petits morceaux et dire qu'il y a des petits conflits et des sous-conflits entre différents acteurs sur le territoire syrien. Le point de départ, c'est tout de même, si l'on n'a pas un règlement à Damas qui change un régime dictatorial et criminel, on n'obtiendra rien. Alors nous aurons peut-être une zone d'influence contrôlée par la Turquie, peut-être pacifiée, j'en doute, une zone contrôlée par l'Iran et une protestation israélienne, parce que Israël ne peut pas supporter que l'Iran soit à ses frontières, à juste titre. Donc nous sommes devant, nous avons tous les ingrédients, effectivement, d'un embrasement général. Et la question sécuritaire syrienne devrait au moins être celle qui émeut les politiques, si la question humanitaire ne le fait pas.
Manifestement, c'est le cas avec donc Jean-Yves Le Drian, qui a prévu un voyage à Téhéran, puisqu'on n'a pas encore parlé de l'Iran, Basma Kodmani, mais elle est très impliquée dans ce conflit également, et qui a aussi prévu de se rendre à Moscou pour parler avec Sergueï Lavrov, son homologue russe. L'Iran, le rôle de l'Iran ?
Le rôle de l'Iran est un rôle impossible à intégrer dans une solution en Syrie. Il faut savoir qu'il y a sur le territoire syrien environ entre 50 et 70 000 miliciens que les Iraniens ont entraînés, formés, équipés et commandent en territoire syrien pour mener les combats, car les forces du régime d'Assad ne sont plus suffisantes. Les désertions sont considérables, beaucoup de gens ne veulent plus se battre, il ne fait pas confiance à beaucoup d'unités de son armée parce qu'il ne veut pas la mettre en face de la population, donc il y reste quelques unités spéciales sur lesquelles le régime peut compter. Et qu'il mobilise lorsqu'il y a une grande bataille. C'était le cas à Alep, c'est aujourd'hui le cas dans la Ghouta. Il va faire venir les unités spéciales d'élite. Mais ces gens-là ne suffisent pas pour mener une offensive terrestre, parce que nous ne sommes pas encore devant l'offensive terrestre. Elle est encore à venir, celle-là.
Oui, c'est pour ça que certains disent le pire est encore à venir.
L'horreur,
craignant une offensive terrestre.
Elle ne s'est pas complètement exprimée encore. Mais l'Iran derrière est absolument vital. L'Iran, le Hezbollah libanais sont absolument vitaux pour mener ces combats. Ce qui rend la Russie dépendante de ses forces terrestres, qui sont iraniennes. Donc la Russie n'est pas en position aujourd'hui de mécontenter l'Iran. Et le projet iranien en Syrie, on ne s'interroge pas suffisamment. Le projet iranien en Syrie, c'est de rester, c'est de maintenir un gouvernement faible que l'Iran contrôlerait, et nous sommes effectivement devant un risque que ça ne soit pas toléré par notre voisin, notre grand voisin israélien, qui fera le nécessaire. Et là, si ça se passe en territoire syrien, nous avons vu le Liban il y a 10 ans s'embraser parce que à cause du Hezbollah. Eh bien là, nous avons Syrie plus Liban. Si ça ne va pas au-delà.
Mais Basma Kodmani, donc on ne fait pas pression sur la Russie. L'Iran est impossible à intégrer dans un règlement du conflit. Les diplomates tournent les regards, si bien que certains, en particulier comme le Guardian cette semaine, écrivent que la Ghouta est un autre Srebrenica, hein, du nom de ce massacre des Bosniaques musulmans en 95 par les Serbes. Le siège de la Ghouta a, cela dit, dépassé de 10 mois les 4 ans du siège de Sarajevo entre 92 et 96. Bon, comment arrêter ce massacre ? Alors ?
Un cessez-le-feu doit être réel. Les populations sont excédées aussi par les groupes armés qui sont dans les zones. Mais le dilemme, c'est qui les protégera si les groupes armés cessent de les protéger, s'en vont. Et le scénario que nous avons vu jusque-là, c'était toujours le siège, l'étranglement des zones et puis l'exigence du départ des combattants. Le plus souvent, c'était aussi le départ des populations, c'est-à-dire le déplacement forcé de populations, le plus souvent vers le nord de la Syrie. Mais là, nous parlons de 400 000 habitants. Où iront-ils ? Mais vous savez, tout ce qu'on a pu imaginer, on disait Alep, jamais on ne va sortir. Mais si, 200 000 personnes sont sorties ou 250 000 personnes sont sorties en moins de 6 jours d'Alep. Donc... tout cela est en train de se répéter s'il n'y a rien pour l'arrêter. Et la solution, c'est que nous allions à la négociation, et je parle au passé malheureusement, mais nous irons à la négociation s'il le faut. Nous allions à la négociation sur la base du principe de ni vainqueur ni vaincu. Voilà. Le régime reprend la main grâce aux Iraniens et à la Russie, l'aviation russe, mais le régime n'est pas en mesure de gouverner le pays. Le monde a-t-il compris cette donne ? Il nous semblait que oui, lorsque le processus à Genève était engagé. Venez, il y aura un processus constitutionnel, électoral, et par lequel on pourra avoir la transition politique. Aujourd'hui, tout ça est totalement par terre. Et l'ONU n'est pas en mesure de dire que les termes de cette négociation viennent de s'effondrer.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Il est 8h32 sur France Culture, nous restons avec Basma Khodmani, mais le temps d'écouter la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
On parlait de la Syrie, bien entendu, mais s'il y a un retour en France qui vous a intéressé, avec l'ouverture, bien entendu, du Salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris, le président Macron doit s'y rendre d'ailleurs dans quelques heures, mais entre Macron et les agriculteurs, ce n'est pas le grand amour.
Et non, ce n'est pas le grand amour, et d'ailleurs, comme le rapportait le Dauphiné Libéré ou encore La Nouvelle République, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de venir tapoter les vaches au salon. Face aux inquiétudes de la profession, il répond plutôt « habitude à changer et décisions difficiles à prendre ». Il faut dire que les défis ne manquent pas, comme le résument deux longs articles à lire sur le site The Conversation. Scandale sanitaire, précarité de nombreux agriculteurs, dégradation des sols, usage des pesticides. Sur fond d'aspirations et d'injonctions souvent contradictoires, l'agriculture française est à la croisée des chemins, résume Christian Huyghe, chercheur à l'INRA. Un modèle construit dans les années 50 qui repose sur l'obsession des prix bas et de la productivité, explique-t-il. Et pourtant, les choses bougent sur la question des pesticides, par exemple, comme le rapportaient les Échos hier. La FNSEA, syndicat majoritaire, veut présenter d'ici fin juin 250 solutions pour réduire, voire se passer des pesticides. Cela va du robot Biner, capable d'éradiquer les mauvaises herbes, au drone pour détecter les rongeurs. Des solutions qui misent sur la technologie et le numérique, ce qui ne convainc pas totalement les ONG, rapporte le journal, qui prennent plutôt des solutions de biocontrôle. Alors malgré tout, malgré ces initiatives, difficile d'ignorer que le salon s'ouvre dans un climat de grogne du milieu rural dans son ensemble, relève le journal Le Monde. Durant ces 9 derniers mois, tout un ensemble de mesures semble avoir touché davantage les populations rurales ou plus modestes. Hausse du diesel, limitation de la vitesse, remise en cause des petites lignes de la SNCF, fermeture des classes rurales, entre Macron et les campagnes, la défiance est dans le pré.
De l'agriculture, on passe à la culture.
Et culture américaine, précisément. Vous savez, cette semaine, on a beaucoup parlé du film Black Panther de Ryan Coogler, le premier film américain avec des super-héros noirs. Il explose les records au box-office, aux États-Unis comme en France. La musique a été confiée au rappeur Kendrick Lamar. Vous connaissez Kendrick Lamar, Caroline ?
Tout à fait.
Et bien que vous le connaissiez très bien, que vous soyez fan ou non, je vous conseille de lire le portrait qu'en fait le magazine Society dans son dernier numéro. C'est un portrait en creux par les témoignages uniquement des habitants de Compton, banlieue de Los Angeles où a grandi le rappeur, entre guerre des gangs et trafic en tout genre. Une histoire purement américaine qui parle de violence et d'inégalité, mais aussi d'un jeune homme qui s'en sort parce qu'il s'accroche à la musique et à la poésie. Kendrick, c'est le type discret, réservé, toujours assez malin pour ne pas s'attirer d'ennui. À lire ses proches et ses amis d'enfance, se dessine l'image d'un modèle, d'un grand frère. Cette semaine, et ça c'est le Figaro qui nous l'apprend, il a privatisé 3 cinémas pour offrir une projection gratuite de Black Panther à des jeunes des quartiers défavorisés. Un vrai héros américain.
Et on termine avec une réflexion sur la guerre. La guerre omniprésente dans l'actualité, mais absente de l'université.
C'est un article à lire dans le dernier numéro de la revue Le Crieur, signé Alexandre Jublin, doctorant en histoire. Qui pense la guerre aujourd'hui ? Eh bien, pas grand monde, constate-t-il, et c'est l'objet de cet article. La guerre, un champ délaissé par l'université française, alors même que les conflits sont en pleine mutation. Guérilla, cyberguerre, usage des drones, sans compter les opérations extérieures françaises qui mériteraient un débat digne de ce nom. Il y a un malaise profond et persistant autour de ce domaine de recherche, constate l'auteur. De fait, durant longtemps, il fut difficile pour la sociologie, l'histoire ou les sciences politiques de se saisir de l'objet militaire sans se retrouver confronté confrontée aux soupçons parfois fondés de militarisme. Résultat, la France se prive d'une expertise précieuse, tandis que les War Studies se développent à l'étranger. Alors en attendant la guerre et son histoire, eh bien on en trouvera une pleine page à déplier amplement, comme toujours dans le journal Le 1, un hors-série sur la guerre de 14 et sur Clémenceau, cet apôtre de la guerre intégrale, qui n'en était pas moins sensible, raconte le journal. Pour preuve, cette lettre adressée à son frère alors au front. « Mon cher petit frère, écrit Clémenceau, je t'aime et je souffre de te voir au feu. J'aurais dû, je me le dis souvent, t'empêcher d'y aller. »
C'était la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Et on vous retrouve, Basma Khodmani, politiste, directrice du think tank Arab Reform Initiative et aujourd'hui membre de la délégation de l'opposition syrienne, le comité des négociations de l'opposition syrienne. Où en est cette opposition précisément? Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, puisque ce comité aujourd'hui réunit toutes les parties qui étaient dans les dissensions, qui ont effectivement, vous avez vous-même démissionné en 2012 du Conseil national syrien, ça s'est reconstitué. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord sur l'ensemble des processus de négociation?
Oui, nous avons constitué au mois d'octobre dernier une coalition de toutes les forces de l'opposition, celle qui préconisait des solutions de compromis, celle un peu plus dure, disant pas question, il faut qu'Assad s'en aille d'abord et ensuite on parlera. Et tous ces groupes se sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait une négociation sur des termes clairs qui sont définis par les Nations Unies. On va faire semblant d'être dans la bulle puisque pour l'instant on va ignorer le terrain et dire cette coalition était d'accord pour aller à la négociation avec le régime syrien pour constituer une autorité de transition gouvernementale qui assurerait effectivement le passage de la sortie de cette dictature et une sortie pacifique. Donc les groupes sont tombés d'accord là-dessus, y compris des groupes armés qui sont au sein de cette coalition, qui sont aujourd'hui bombardés dans la Ghouta. Ce sont ces mêmes groupes armés qui ont signé des accords de désescalade à Astana, au Kazakhstan, sous l'égide de la Russie, qui est le garant de ces accords de désescalade, en particulier dans la Ghouta.
On voit ce que ça donne.
On voit ce que ça signifie. Mais même ces groupes sont au sein de cette coalition, viennent à Genève et négocient également. Ils sont très inquiets pour leur avenir. Nous savons qu'il faut des solutions pour les groupes armés. Il faudra qu'ils retournent dans la vie civile ou qu'ils soient intégrés dans l'armée. Tout cela, nous en parlons dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'une constitution? Comment assure-t-on la laïcité en Syrie? Comment assure-t-on le sort des minorités? Comment assure-t-on la participation des femmes, bien sûr, qui est majeure?
C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'après.
Nous sommes complètement dans l'après. Comment la communauté internationale peut nous aider à organiser des élections en Syrie lorsque 6 millions ou 7 millions sont à l'extérieur et 5 autres millions sont déplacés de chez eux? Comment on va les retrouver, tous ces gens-là? C'est technique, il faut s'y atteler. Nous y sommes et c'est ce que nous allons faire. Tout le temps, à Genève, à Bruxelles, dans des différents ateliers de travail où nous travaillons sur ces questions. Et j'ai le sentiment que plus nous avons des propositions concrètes de solutions, et plus le régime devient fou et s'inquiète. Et en réalité, cette opération contre la Ghouta, le régime l'a voulu pour démolir les perspectives de négociations sérieuses, parce qu'il était à l'épreuve à ce moment-là, lorsqu'il a lancé l'opération, sur allez-vous participer à une commission constitutionnelle pour préparer une nouvelle constitution démocratique pour la Syrie, avec une série de principes très clairs, approuvés par la Russie, et que le régime n'approuvait pas. Il y a eu une conférence que les Russes ont voulu tenir à Sotchi, et cette conférence a eu lieu. Le communiqué final parlait de 12 principes et du droit et de l'autorité pour les Nations Unies de constituer une commission constitutionnelle. Cela voulait dire que l'opération commençait à échapper au régime puisque la Russie allait approuver ce processus. Alors, qu'a fait le régime? Est-ce qu'il a pris de court les Russes? Je ne pense pas puisque les Russes bombardent avec leur aviation. Donc on ne peut pas dire que les Russes ne sont pas d'accord. Ils le sont et la preuve au Conseil de sécurité, ils ne font que retarder cette résolution et l'affaiblir. Donc les Russes sont derrière. Mais on nous dit, l'histoire montre que, effectivement, dans d'autres expériences, les combats continuent, s'intensifient pendant que les processus politiques se négocient. Eh bien, si c'est le cas, retournons à Genève. L'opposition est d'accord pour retourner à Genève,
malgré l'opposition dans son ensemble.
L'opposition
donc,
dans son
le
ensemble.
Comité.
Bien entendu, il y a des réactions de colère chez beaucoup de ces des membres de l'opposition pour dire mais qu'est-ce que nous faisons à Genève ? On se moque de nous. Pourquoi allons-nous retourner ? Mais stratégiquement et rationnellement, nous sommes décidés à ne pas être la partie qui mettra fin à la négociation. Nous y serons. Parce que nous ne pensons pas que nous allons pouvoir négocier avec ce régime, il ne se réformera jamais. Mais nous pensons en revanche que cette opposition très large, qui représente sûrement 80% de la population syrienne, peut se reconnaître dans cette opposition, elle est en train de préparer l'alternative à Assad. Et c'est comme ça que les négociations peuvent avoir un sens. Assad ne cédera jamais sur rien, nous le savons, il est resté au pouvoir 17 ans, il aurait pu le faire avant, il ne l'a jamais fait lorsqu'il en a eu l'occasion. Et c'est un régime irréformable. Mais nous jouons le jeu et nous savons que nous préparons cette alternative. Si nous avons une constitution, un processus électoral, un gouvernement de transition que nous avons bien pensé, un environnement, un modèle de changement des institutions de sécurité, puisque c'est le plus inquiétant en Syrie, ce sont nos services de sécurité qui massacrent dans les prisons. Vous savez, les images que l'on voit de temps en temps surgir des prisons sont affolantes, mais personne dans la communauté internationale ne veut porter ça devant les tribunaux internationaux. Personne ne veut parler de responsabilité et d'impunité. Et nous sommes devant ce silence international absolument insoutenable. Il n'empêche que tout cela est en train d'être préparé par l'opposition pour dire si Assad s'en va, elle existe, l'alternative. Elle a été préparée par une très large coalition de gens de l'opposition.
Basma Kodbani, ce que vous êtes en train de nous dire, là, cette préparation, ce processus qui est en cours de cette alternative dont vous nous parlez, c'est un scénario de sortie de crise réaliste ou idéaliste ?
Il faut faire le nécessaire pour dire que l'alternative existe. Car vous l'entendrez de la bouche de tous les responsables occidentaux, quelle est l'alternative à Assad ? Assad s'est efforcé de tuer toute alternative qui ait pu naître un jour. Donc il est évident qu'il ne va pas tolérer l'émergence d'une alternative. Donc nous n'avons que l'espace des Nations Unies où nous pouvons formuler cette alternative et la dessiner et y travailler. Et c'est notre seule voie de sortie pacifique. C'est cela ou bien pas de solution en Syrie. Autrement dit, si l'on peut prendre le rapport de force, le régime peut gagner, puisqu'il a la protection de la Russie et massive de l'Iran, il peut gagner. Alors, si la solution est militaire, ce n'est pas une solution. Donc, nous aurons des décennies encore, une guérilla en Syrie, du terrorisme en Syrie, une instabilité chronique à travers le pays qui sera insupportable pour la population, bien sûr, et pour tous les voisins.
Pas grand-chose à attendre de la communauté internationale, des diplomates, des politiques, on l'a bien compris, Basma Kodbani. Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer du côté de la société civile internationale d'ailleurs, hein ? Maintenir la pression, on se souvient, on a cité Sarajevo et Srebrenica tout à l'heure, on se souvient de ces minutes pour Sarajevo. Est-ce qu'on pourrait pas penser une minute pour la Ruta orientale, par exemple, chaque jour, dans les journaux, dans les médias, dehors, je ne sais pas. Qu'attendez-vous de la société civile ?
Oui, des gestes forts, symboliques. La société civile internationale a été admirable. Elle est un allié formidable pour la population syrienne. C'est vrai qu'elle porte la voix des Syriens et la réalité vers l'extérieur. Elle embarrasse les gouvernements, mais apparemment pas suffisamment pour qu'ils agissent. Non, nous avons un soutien magnifique des organisations de la société civile internationale. Nous avons aussi une société civile syrienne qui est étonnante de dynamisme, de créativité et de courage. Et nous avons les organisations de la société civile qui opèrent à l'intérieur et à l'extérieur, mais nous avons surtout les populations locales. Il faut savoir, et ça c'est un développement passionnant, dans le nord de la Syrie en particulier, là où se trouve le fief de Al-Qaïda, des radicaux qui contrôlent des zones entières, la population sort dans la rue, fait des manifestations purement pacifiques, il n'y a pas d'armes, pour dire Al-Qaïda dehors. Vous sortez de chez nous. Eh bien, village après village, ville après ville, le Nord est en train de se libérer d'Al-Qaïda. Et les combattants n'osent pas tenir tête à la population. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer sur la population, puisqu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils se réclament de la révolution. Donc, ils ne peuvent pas tourner leur canon ou leur kalachnikov contre la population. Ils sont désarmés quand la population sort. Ce sont des femmes, des jeunes, des vieux qui sortent dans la rue et à coups de balai mettent dehors les Al-Qaïda. Alors ça nous donne quelque chose, au-delà du romantisme de cela, ça nous donne peut-être une indication. Le terrorisme n'a jamais été vaincu par les bombardements aériens. Regardez l'Afghanistan 17 ans plus tard. Alors peut-être qu'on a des schémas à encourager, à soutenir, et c'est la population qui semble être la mieux à même d'expulser de ses rangs et de son tissu social les radicaux.
Allez, restez avec nous, Mats Makodmani. Il est 8h47 sur France Culture et nous entamons le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Qui commence avec l'idée culture. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Mélanie Chalandon.
Eh bien, ce matin, c'est le très célèbre paléontologue Yves Coppens, hein, qu'on ne présente plus, le découvreur de Lucie, que je suis allée voir. Il vient de publier ses mémoires, Yves Coppens, Origine de l'homme, origine d'un homme. C'est chez Odile Jacob. Et puis, eh bien, il nous parle de musique, parce que la musique, dit-il, c'est le sens humain qui nous émeut le plus.
Étant né en Bretagne d'une famille maternelle, je me suis trouvé en milieu très lié à la musique locale, et à la musique de ce qu'on appelle le biniou et bombarde. Et alors donc j'ai pensé à Amazing Grace. Amazing Grace, c'est un air superbe, c'est une mélodie écossaise, et c'est une mélodie surtout donc jouée par les bagpipes écossais, mais aussi par les biniou et bombarde bretons. Et c'est un air à la fois très solennel, très digne, que j'aime tellement que quand je le mets, Je le mets de manière répétitive, et c'est sans doute un petit peu agaçant pour l'entourage, mais pas pour moi. Et il se trouve qu'un jour, lors d'un 14 juillet, je pense que c'était sous Jacques Chirac. C'était donc aux Champs-Élysées, Jacques Chirac était sous sa grande tente et sa grande estrade, et le bagade de l'Anne Biwe, c'est tout près de Lorient, et c'est la marine de guerre. On appelle ça la royale. C'est assez amusant d'ailleurs, c'est la royale. On y est encore. Les choix, quoi. Et donc, le bagad de l'Anne Biwe avait joué Amazing Grace. C'était tellement émouvant. C'est une des choses qui peut me tirer les larmes des yeux, quoi. C'est une des choses qui m'émeut le plus, et même en ce moment même. La musique, tout particulièrement, la musique en général, et certaines musiques en particulier. Et je vois moins bien, et je serais très triste d'entendre moins bien. Parce que je pense que c'est par cet organe de sens-là que j'ai le plus de joie de vivre.
Mais précisément, est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui vous émeut dans cette musique en particulier ?
Cette musique en particulier, c'est sûrement le côté très lent, très lent, très cadencé en même temps. La sonorité de ces instruments, qui sont en fait des instruments anciens, hein, qui ont perduré en quelque sorte par-delà les siècles. Et puis, encore une fois, le côté extrêmement solennel. C'est une sorte de marche, c'est une marche.
Vous avez dit que vous l'écoutez en boucle. Qu'est-ce que vous y trouvez ?
Toutes ces musiques que j'adore sont un peu ma raison de vivre. Enfin, je veux dire que ça fait partie du plaisir que j'ai dans la vie, de ma joie de vivre. Ça m'entretient merveilleusement, ça entretient mon moral. Je n'en ai pas tellement besoin, mais enfin tout de même, c'est toujours agréable. Et c'est à la fois un bonheur intellectuel, un bonheur sensuel, et une manière de retrouver, dans la mesure où on l'a perdu, un certain calme, une certaine sérénité. Et en l'occurrence, cette mélodie-là, évidemment, il y a des mélodies avec ce genre d'instruments qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus dansées, ou au contraire beaucoup plus guerriers. Mais là, c'est un chant qui est un chant d'apaisement et de grande dignité, de grande sérénité. Vous voyez, mon émotion est totale. Mais avouez que c'est superbe, non? En plus, quand l'ensemble des sonneurs se mettent à faire sortir cette mélodie, je crois que c'est ce qu'on a de plus beau dans nos arts sur la Terre. Enfin.
Émotion communicative d'Yves Copin. Est-ce que vous avez la chair de poule, Caroline?
Je vais retourner la question à notre invité, mais je crois que oui, j'ai pas besoin forcément d'insister, je crois.
Bon, en tout cas, on peut revoir, si l'on veut, cette Amazing Grace jouée par le Bagad de Lanbiwe. Un Bagad, hein, c'est un ensemble militaire. Le Bagad de Lanbiwe, c'est le seul d'ailleurs Bagad militaire français et professionnel encore existant qui représente la marine. Et on peut les voir jouer très très facilement sur Internet.
C'était Yves Copins au micro donc de Mélanie Chalandon. Il est 8h52, c'est l'heure des mitonnages de Jackie Durand de Libération. Bonjour Jackie.
Bonjour Caroline.
Je crois qu'aujourd'hui vous allez nous parler de nourriture ferroviaire.
Eh oui Caroline, en ces temps incertains de grands chamboulements ferroviaires à venir, moi je me fais un peu de mouron pour les tortillards et les petites gares. Cette France des petites fugues, de l'éloge de la pause pipi, de l'omnibus, des valises en carton bouilli et des repas tirés du sac. Il paraît qu'ils sont dans le collimateur, ces trains qui font teuf-teuf sur les viaducs. Pas assez rentables, désuets qu'ils disent, les TGV addicts et les accros du bitume qui se voient déjà en train de démonter les rails pour ouvrir toute grande la concurrence de la route. C'est pas qu'on soit contre les bus, mais quand même, ça a une autre gueule un train qui s'échauffe dans les faubourgs et les banlieues. Et puis dans le car, on est souvent serré comme dans un mouchoir de poche, alors que dans l'omnibus, on peut valser entre les wagons, se dérouiller les jarrets dans les soufflets. Et puis vous savez, courser l'homme qui fait le meilleur café Lavaz du monde sur son petit chariot, où l'on va dévaliser les barres chocolatées. Et puis vous, amis voyageurs flâneurs, qui aimez la lenteur sur voie ferrée, vous seuls savez à quel point le boire et le manger y sont importants. Pas question ici de vous parler de la nourriture à très grande vitesse des voitures-bars qui vide plus vite votre porte-monnaie qu'elle ne vous remplit l'estomac. Non, nous tairons aussi, vous savez, cette race de goujats qui, à peine installée en voiture 18, vous dégaine le menu Big Graillon avec double hamburger et frites qui vous dopent toute la rame. Non, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les complices du repas tiré du sac, les solitaires de la gamelle emportée que l'on débusque encore dans les tortillards. Souvent, on les repère de la montée dans le train tant ils sont organisés. Monsieur porte la valise, trop lourde évidemment. Il vérifie au moins deux fois que sa malle est bien arrimée dans la bannette à bagages. Après, c'est selon. Soit notre couple dégaine séance tenante ses munitions alimentaires, soit il attend le départ du train. Tant feuilleté le bien public, femme actuelle, pourquoi pas Libération. Madame sort alors deux gros quignons de pain, avec beurre et jambon emmailloté dans du papier d'aluminium, lui-même recouvert de papier absorbant, vous savez, pour se servir comme des serviettes. Beaucoup plus rarement, on croise encore quelques esthètes du pique-nique qui transforment leur tablette de voyage en aire de dégustation avec topette de Bordeaux, salade composée, tranche de rôti. Mais le plus souvent, voyageur-mangeur se contente de déguster sobrement son sandwich en regardant défiler le paysage. En couple, cela donne parfois des propos aussi croustillants que leur pain. « T'as vu, là-bas, ils ont repeint leur maison en rose, c'est joli !» En général, la collation ferroviaire est courte et s'achève par une brève gâterie sucrée, fruits, gâteaux secs. Mais il existe encore quelques mohicans du rail qui s'attardent en tranchant le crottin de chavignol comme s'ils étaient à la foire d'automne. On note aussi qu'après une traversée du désert, le thermo de café ou de thé fait un retour remarqué à la faveur de l'air du temps qu'il décline en modèle individuel.
Donc pour vous, le train, ça sert qu'à manger, quoi?
Non, c'est beaucoup plus qu'un réfectoire, Caroline. Comme je vous le disais, il autorise les petites fugues, donc la possibilité d'aller se ravitailler à la montagne ou dans le bocage. Vous savez, c'est le bonheur de descendre sur un quai trou du cul du monde pour aller cueillir, par exemple, votre prochaine salade de pissenlit printanier. On en a déjà parlé ici. Vous prenez votre topinel, quelques pochons en papier, une paire de bottes, de quoi casser la graine. Vous prenez le premier train en partance pour nulle part, vous marchez nez au vent vers une prairie, vous dérouillez votre carcasse en rampant sous le barbelé, faites attention aux chèvres frais dans la musette, sinon vous allez être complètement écrabouillé. Et puis après, vous vous penchez comme ça pour cueillir vos pissenlits. Vous pouvez faire la même chose l'été en allant cueillir des mûres, à l'automne évidemment les champignons. Et puis les petites fugues ferroviaires permettent également d'aller se ravitailler en saucisses de morteau, en fromage chermier et autres pépites gourmandes. Alors je vous en conjure, laissez-nous nos tortillards et nos gares minuscules. Ne serait-ce que pour le bonheur de faire partager le fumet d'un bon Munster fermier à nos voisins de voyage.
C'était l'éloge des tortillards par Jackie Durand. Je vous remercie parce que vous avez arraché beaucoup de sourires à notre invité Basma Khodmani. N'est-ce pas Basma Khodmani?
Oui, c'est un plaisir que... on retrouve avec grande joie et ces trous du cul du monde ou du pays sont des lieux qui deviennent un peu un rêve, c'est vrai.
Mais on va terminer en musique avec vous, avec votre choix musical, Basma Khodmani. Tout à l'heure, Yves Coppens, au micro de Mélanie, disait à quel point la musique pour lui était l'un des arts majeurs et que ça lui permettait d'entretenir son moral. Je ne sais pas si celle que vous avez choisie vous permet d'entretenir la morale, le moral, votre morale. Vous avez peut-être souvent besoin, et peut-être plus besoin d'ailleurs que nous tous ici réunis. En tout cas, vous avez choisi un artiste syrien de la diaspora, Riyad Nicolas.
Oui, Riyad Nicolas, parce que c'est un musicien, c'est un pianiste qui à 15 ans a été reconnu parce qu'il a joué dans des compétitions et on a immédiatement repéré son talent. Il joue Rachmaninov, il joue de la musique classique. Il a eu pour professeur un professeur de musique russe. Il a un compositeur qui lui-même a travaillé avec un compositeur russe. Et je trouve que la symbolique est magnifique. La Russie bombarde la Syrie aujourd'hui. Et pourtant, les Syriens sont férus de musique, connaissent les musiciens russes, connaissent la littérature russe. Nous avons au sein de la délégation de l'opposition un grand expert de littérature russe. Et c'est à la fois cette image de la Russie qui nous bombarde et ce musicien qui a embrassé la culture, la musique classique, très imprégnée de la musique russe.
On l'écoute. Un grand merci, Basma Khodmani, d'être venu ce matin nous parler de votre pays, la Syrie. À très bientôt, j'espère, et bon courage pour la suite.